Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Écologie humaine, le mot peut sonner barbare ou surprenant tant on associe plus facilement l'écologie aux ours polaires plutôt qu'aux hommes. Et pourtant, si la crise écologique actuelle dénoncée de Nicolas Hulot au pape François était d'abord une crise de l'homme, de sa place dans le monde, du regard que l'on porte sur lui. C'est en tout cas la conviction de mes invités de ce matin, tous persuadés que face à ce qu'ils appellent la tenaille libérale libertaire actuelle est venu le temps de l'homme. Une émission Vivante Église ce matin, donc Écologie humaine, le temps de l'homme, à l'occasion, donc émission enregistrée, je le précise aux auditeurs, samedi dernier à Balma, à l'occasion des rencontres du travail organisées par le mouvement Écologie humaine, avec ce sous-titre, Le travail change, imaginons l'avenir. Alors dans cette émission, il y aura pas mal d'invités en plateau, on va en tout cas présenter les deux premiers qui sont là pour le début de cette émission. Alors à tout seigneur ou tout organisateur, tout honneur, Benoît de Maupou, qui est représentant toulousain du courant Écologie humaine, bonjour.
Bonjour.
Approchez-vous bien du micro. Pierre-Yves Gomez, donc vous êtes économiste, vous êtes professeur à l'EM Lyon, vous êtes co-initiateur du courant pour une écologie humaine. Bonjour.
Bonjour.
Alors je propose dans cette première partie peut-être qu'on aide nos auditeurs à plonger dans ce qu'est l'écologie humaine. Mais avant toute chose, Benoît de Maupou, vous, comment vous présenteriez ce mouvement? Pourquoi vous l'avez rejoint peut-être et en quoi consiste cette journée?
Alors, qu'est-ce qui m'a motivé en rejoignant le courant pour une écologie humaine? Je dirais que c'est l'observation que l'homme est moins présent et qu'il y a dans nos vies trépidantes, qu'elles soient économiques, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient sociales. On oublie souvent l'essentiel, on oublie de voir les choses à hauteur d'homme, que ce soit dans nos relations de proximité, encore une fois, dans notre travail. Donc moi, on a ressenti dans les premières réunions qu'on a eues, que ça soit chez les agriculteurs, que ça soit chez les artisans, que ça soit chez des professionnels, que ça soit chez des ingénieurs dans des grandes entreprises, cette envie de se poser, de regarder, d'avoir un regard à la fois critique, tout en étant bienveillant sur l'environnement dans lequel nous sommes, avec cette nécessité de se poser et de réfléchir.
Vous avez entendu parler d'écologie humaine dès les débuts? Ou est-ce que vous avez entendu parler d'écologie humaine après qu'il se soit créé?
J'en ai entendu parler à travers ce courant. Alors après, du coup, j'ai plongé, j'ai regardé d'où ça venait. Finalement, c'est pas un terme. L'écologie humaine n'est pas un nouveau terme. C'était employé déjà au début du XXe siècle. On l'a retrouvé d'ailleurs en particulier dans les encycliques de plusieurs papes. Donc c'est pas nouveau et je trouve que c'est une merveilleuse symbiose entre d'une part effectivement l'écologie, on a aussi le souci, on doit avoir le souci de notre environnement, mais pas uniquement notre environnement écologique, notre environnement naturel, c'est important certes, mais aussi notre environnement humain, les gens qui sont autour de nous. Comme dirait quelqu'un de bien connu, tout est lié.
Voilà, donc cette journée donc, qui est sur le thème donc, du travail, avec cet intitulé, je l'ai dit au début de l'émission, Le travail change, imaginons l'avenir. Alors peut-être écologie humaine, certains connaissent, d'autres ont des a priori, d'autres ne connaissent pas. Alors je propose qu'on fasse un petit peu d'histoire d'une certaine manière, même si peut-être pour ce mouvement histoire, c'est beaucoup dire. Pierre-Yves Gomez, vous êtes un des co-initiateurs. Si j'ai bien compris, tout a commencé suite à une tribune que vous avez publiée dans La Croix, co-signée entre autres avec Tuc d'Hulderville, donc délégué général d'Alliance Vita, et un troisième, vous allez nous présenter le troisième mousquetaire, tribune qui faisait suite aux grandes manifestations pour tous à l'occasion de la loi Taubira. Rappelez-nous peut-être la genèse, pourquoi tout d'un coup vous avez écrit cette tribune après ces grandes manifestations?
Alors, le troisième mousquetaire s'appelle Gilles Herrère Dubreuil et c'est un spécialiste des catastrophes et de la reconstruction des sociétés après les catastrophes comme celle de Tchernobyl sur laquelle il a beaucoup travaillé. Alors, on n'était pas après une catastrophe, mais on était au printemps 2013, dans une France très secouée par ces grandes manifestations et surtout par une cassure sociale, politique très très nette, très clivante, comme on disait à l'époque, entre des partisans d'un progrès dont on comprenait pas très bien où il pouvait mener et ceux qui se sentaient inquiets de ce progrès. Et alors, ce qui nous a semblé, alors on s'est rencontrés avec Tuc Duhal et Gilles un peu comme ça par le hasard des choses, et ce qui nous a paru important à ce moment-là, c'était de rappeler l'importance de l'espérance pour construire la société que nous voulons. Ce qui nous apparaissait, c'est qu'on était emporté, et on est encore souvent, par le sentiment qu'il y a un système qui nous, un grand système économique, un grand système politique, un grand système social qui nous emporte et qu'on n'a plus grand-chose à faire. Or, non seulement c'est faux, mais ça n'a jamais été comme ça. La société s'est toujours construite parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont pris leur destin en main et qui ont essayé de construire le présent qui leur semblait le plus juste et l'avenir qui leur semblait le plus durable. Ça a toujours été comme ça. Et il nous a semblé important de le rappeler. Et donc, c'était l'occasion de cette tribune dans la Croix où on a rappelé que si on voulait construire cet avenir, il fallait le fonder sur l'être vivant le plus attaqué aujourd'hui, le plus en difficulté et peut-être le plus prêt à disparaître si on n'en prenait pas soin, qui est l'être humain.
Alors, je cite un passage de cette tribune qui dit justement l'intention profonde, peut-être que vous pourrez développer, qui est d'appeler en fait à une mobilisation des consciences et une mobilisation citoyenne en partant du principe que le changement se fait par le bas. Le Parlement légifère sur la nature humaine au gré des groupes d'intérêt ou de théories qu'on nommera sens de l'histoire. Les entreprises considèrent l'être humain comme une variable d'ajustement de l'efficacité. Les politiques environnementales en viennent à protéger la nature au détriment de l'homme. Et vous avez ce mot après, mot conjoint donc, alors que le mot humanisme est dans tous les discours, c'est aujourd'hui la nature de l'homme qui est attaquée. Donc, vous vouliez quoi parler de cette fracture anthropologique, comme on dit, ce combat, ou est-ce que vous imaginiez ça de manière plus large ?
En fait, notre approche, c'est que le politique, si on doit refonder, tout le monde veut refonder quelque chose, et donc en particulier le politique, si on doit le refonder, on doit le refonder à partir de ce qu'il aurait dû toujours rester, c'est-à-dire un service à l'être humain. Et ce qui est oublié par le politique, c'est l'être humain. Alors, l'être humain, ce n'est pas l'homme comme un concept. C'est vraiment les personnes, les hommes et les femmes qui vivent dans leur expérience concrète, leur expérience de travail concret, leur expérience de santé, de famille concrète. Et l'objectif, c'est de repenser le politique à partir de ça, à partir de nos expériences de vie. Votre expérience quotidienne en tant que père de famille, votre expérience en tant que salarié, votre expérience, mais telle que nous la réalisons. C'est ça que nous vivons, en fait. Nous vivons à hauteur d'homme. J'aime bien cette expression, à hauteur d'homme.
Mais est-ce que c'est pas, comment dire, un sentiment largement partagé ? Est-ce qu'il y a besoin de créer un mouvement, en fait, pour ça ?
Alors précisément, je ne crois pas qu'il soit partagé.
À vous entendre, pour vous, en fait, vous appelez vraiment une forme de transformation radicale de la société qui serait à la fois culturelle, sociale et même politique.
Oui, parce que je ne pense pas que le sentiment, ce que j'appelle notre néo-humanisme, il soit partagé. Ce qui est partagé, c'est l'idée que l'homme est important, l'idée de l'homme est importante, mais pas le contenu de son expérience de vie, de sa nature. Je vais prendre un exemple. En entreprise, tout le monde dit qu'il faut mettre l'homme au cœur de toute chose. Et jamais l'homme a été moins au cœur de toute chose. Ce sont les machines, les systèmes, les contraintes, les contradictions qui motivent l'action humaine. C'est jamais l'expérience de tel homme, telle femme, dans son travail quotidien, ce qu'il fait, le travail réel, comme on dit. Donc, que tout le monde parle de l'homme, ça c'est certain, mais qu'on s'intéresse à hauteur d'homme, à hauteur de ce que nous vivons concrètement, ça, je pense que c'est très original. Alors, c'est pas pour le plaisir d'être original, mais c'est réellement révolutionnaire, c'est réellement radical, parce qu'on redescend à la racine. Radical, ça veut dire ça, à la racine. La racine de la vie humaine, c'est ce que nous vivons, à partir des expériences très concrètes que nous vivons. Voilà, retrouver un sens du politique qui s'intéresse à ça, un sens de la direction d'entreprise qui s'intéresse à ça. Vous voyez, on a parlé tout à l'heure, et on a eu des personnes d'entreprise remarquables qui nous ont parlé de précisément du soin qu'ils prennent aux personnes. Mais dès lors qu'on parle des grands systèmes de management, par exemple, tout le monde va trouver des solutions, effectivement, sur le papier. Mais dès lors qu'on partage telle ou telle expérience, tel ou tel partage avec telle personne qui travaillait, le suivi de la personne et comment on a organisé, comment on a accru, y compris la performance, à partir de ce que font les gens, ça, je vous assure que c'est une vraie révolution.
Alors, vous me disiez en préparant l'émission que écologie humaine, ça pouvait sonner comme soit faire pchit pour certains, soit sonner comme une déclaration de guerre au moment de la manif pour tous, ou en tout cas comme un mot, peut-être pour certains, comme une tentative un peu de récupération. J'imagine que c'est des choses que vous avez entendues. Vous me disiez qu'en fait, aujourd'hui, le contexte est très différent, vous avez l'impression, et est-ce qu'il est plus facile ? En quoi est-il différent ? Est-ce qu'il est plus facile aujourd'hui pour que l'écologie humaine perce et fasse ce travail de fond que vous appelez de vos voeux ?
Alors, on n'est pas écologie humaine, on est courant pour une écologie humaine. L'écologie humaine, c'est tout le monde. C'est des tas de personnes font de l'écologie humaine sans le savoir. Donc, nous, on a un courant qui essaie de fertiliser l'écologie humaine. Alors, c'est vrai que le contexte n'est pas le même. En 2013, on était vraiment dans une logique de clivage, alors droite-gauche, progressiste, conservateur, extrêmement violent, clivage très violent. Aujourd'hui, bah, tout ça a fait pchit pour le coup, et on se rend compte qu'on est un peu perdu devant la véritable violence, qui est la violence du futur, incertain, inquiétant pour beaucoup, et que ça c'est très violent pour notre vie quotidienne. Et on se retrouve finalement des acteurs qui pensaient être opposés il y a 3 ans, qui aujourd'hui se retrouvent dans cette exigence. Qu'est-ce que l'être humain aujourd'hui ? Qu'est-ce que l'être humain ? Qu'est-ce que c'est que la personne humaine dans sa... Pardon de me répéter, mais c'est essentiel dans notre approche, dans sa vie quotidienne, dans son existence.
Est-ce que vous avez l'impression que les nouveaux clivages politiques, on dit que la révolution Macron est en train de transformer complètement les clivages politiques à l'intérieur de ça ? Est-ce que l'écologie humaine aurait sa place, non pas comme un parti politique, mais s'il a sa place, quelle serait-elle ? On dit parfois qu'aujourd'hui, la fracture entre les partis serait plus donc gauche-droite, mais libérale ou pas, et libertaire ou pas sur les sujets de société.
Oh, je crois qu'elle est plus profonde, la fracture. Elle est fondée sur la considération qu'on a de l'homme, de l'être humain. Soit on considère l'être humain comme une variable parmi d'autres, et donc il faut que l'être humain s'adapte, soit agile, soit souple, comme on dit en entreprise, soit adapté, parce qu'il y a plein de contraintes. Soit on considère que l'être humain est au centre même de toute l'attention du politique, de l'attention du social, de l'attention de l'économique. C'est jamais que pour l'homme, que par l'homme. Et du coup, on voit les choses de façon très différente. Je reprends des exemples que je connais bien.
Donnez-nous un exemple. Ouais.
En entreprise, vous pouvez imaginer une politique sociale tout à fait favorable, avec des avantages pour les salariés, humaine, on va dire. Autre chose est de comprendre le travail des personnes à partir de ce qu'elles font, ce qu'on appelle « manager par le travail réel ». C'est-à-dire s'intéresser à ce que fait Madame X, Monsieur X dans leur travail, et à partir de ce qu'elles font concrètement, comment elles agissent, comprendre ce qui sera en service, ce qui sera mieux pour elles, comment on peut orienter leur activité, comment on peut éventuellement orienter leur performance. Ce n'est pas du tout le même regard. Et je vous le dis d'expérience d'économiste et travaillant beaucoup en entreprise, ce n'est pas le même regard. Ce n'est pas la même chose d'arriver avec voyez, une sorte de grille de lecture toute faite qu'on plaque. Et dans la grille de lecture, il y a l'être humain, et de partir des expériences des êtres humains pour construire des outils qui les aident à mieux vivre ce qu'ils ont à vivre. Et ce qui est vrai pour l'entreprise est vrai pour le politique. C'est pas la même chose d'avoir des grandes idées politiques générales sur l'écologie, par exemple, l'écologie animale, et de partir de ce que font les agriculteurs, très concrètement. Comment ils vivent? Dans quelles contraintes on les a mises? Et du coup, trouver des solutions à partir de leur vie.
Alors, c'est un des axes. Alors, derrière, vous avez publié un manifeste. On n'a pas le temps de le détailler, mais enfin, il suffit d'aller sur le site internet pour le voir. J'aimerais juste, parce que le temps file, qu'on vienne sur... vous avez quelques règles d'or qui peuvent peut-être éclairer votre démarche et donner aux gens envie de vous rejoindre ou de s'inspirer de vous. Vous avez 3 primautés. Alors, on va plutôt s'attacher aux 3 principes. L'être sur l'avoir, la relation sur la performance, et la responsabilité sur l'intérêt, l'être sur l'avoir, la relation sur la performance et la responsabilité sur l'intérêt, et 3 principes, dont un auquel vous attachez beaucoup d'importance, la bienveillance, l'attention à ce qu'on appelle les communs, et une action qui tient toujours compte des plus vulnérables. Alors, est-ce que vous pouvez détailler peut-être ces trois règles d'or que vous êtes fixées, et les mettre en perspective ?
Un mot sur les 3 premières. C'est parce qu'on on s'intéresse à l'expérience de vie des personnes que l'être est plus important que l'avoir. Parce qu'on est quand on vit. Que la relation est plus importante que la performance. Parce que la performance n'est qu'une conséquence des relations qu'on entretient avec les autres. Et que la responsabilité est plus importante que l'intérêt. Parce que dans notre vie, on vit dans le temps. Et donc, du coup, on est responsable de nos actes pour demain, pour les autres. Donc voilà pour ces 3 dimensions. Pour ce qui est de nos 3... clé, règle d'or, bienveillance, c'est veiller au bien. Être bienveillant, c'est...
Ça paraît très bisounours, la bienveillance dans le monde de l'entreprise aujourd'hui.
Veiller au bien, être un veilleur du bien, être un veilleur du bien. Alors d'abord, bisounours n'est pas un mot qui me fait peur. Je pense que le monde a évolué favorablement parce qu'il y avait des bisounours, enfin des gens qui étaient considérés comme bisounours par ceux qui auraient mieux fait de l'être eux-mêmes. On n'est pas toujours obligé d'être du côté de ceux qui font le mal ou ceux qui cassent, parce que ceux qui font le bien et ceux qui arrangent sont les bisounours. Donc soyons bisounours s'il le faut. Mais être bienveillant, ce n'est pas simplement être gentil. C'est se sentir veilleur du bien. Vous êtes père de famille, vous êtes dirigeant, vous êtes responsable. Vous sentez être en veille sur le bien qui doit se faire. Le bien, ce n'est pas les autres qui le font, ou le mal non plus, c'est nous-mêmes qui le faisons. Donc c'est ça, être bienveillant, sentir le bien. Les communs. Une grande partie de nos...
On avait fait une émission il y a 2 ans sur les communs. Ouais. Et de fait, moi, j'ai trouvé que c'était... Les communs, et se développent de plus en plus en France, et ce, pas seulement chez des gens, on va dire, de tradition chrétienne. C'est, plus en plus de gens sont sensibles à ces communs.
Tout à fait. En fait, on redécouvre.
Il faut peut-être rappeler ce que c'est. Donc, c'est entre le droit privé et le droit public, il a toujours existé des communs.
La propriété commune, c'est la propriété qui vient de l'usage que l'on a des biens. Par exemple, si j'utilise un champ. Au Moyen-Âge, on appelait commun les champs qu'on utilisait parce qu'on faisait paître ses moutons. Ces champs appartenaient à tout le monde et à personne.
Et on a ça dans les Pyrénées, on a des lieux...
On a toujours ça pour les zones de pêche, on a ça, et on a ça pour... dans notre quartier, les rues sont des communs. En fait, c'est l'utilisation qui fait la propriété. La rue n'appartient finalement qu'à ceux qui l'occupent, qui l'utilisent. Bon. Donc, les communs sont beaucoup de propriétés dans notre environnement. Et redécouvrir qu'il n'y a pas que propriété privée et propriété collectiviste, mais qu'entre les deux, il y a une large part de propriété qui dépend de notre activité et donc qui dépend de notre responsabilité. Donc c'est une dimension importante d'une écologie fondée sur l'homme. Écologie parce que c'est notre oikos, c'est notre maison qui est concernée, mais fondée sur l'être humain qui utilise, qui agit relativement à ses communs. Et enfin, partir du plus vulnérable, ça c'est un principe politique fondamental. Politique au sens large, de direction d'entreprise, d'action dans la famille. Dès lors qu'on exerce une responsabilité, on l'exerce toujours au service de celui qui en a le plus besoin, c'est-à-dire du plus vulnérable. Donc ça, c'est notre troisième principe.
Et Dieu sait s'il peut être révolutionnaire, parce que si, par exemple, le budget de l'État a été fait en fonction des plus vulnérables ou des plus fragiles, peut-être que le budget de l'État serait différent.
Ou les entreprises étaient dirigées de cette façon.
Et la France aurait un autre visage. Alors, comme je vois que le temps passe, j'aimerais quand même que Benoît de Maupoux nous dise 2-3 mots. Le mouvement écologie humaine se développe. Il y a maintenant des formations qui sont développées, qui s'appellent Formation Action CAPS 360. Il y a eu un certain nombre de rencontres. Là, c'est, semble-t-il, les premières rencontres régionales. Pouvez-nous dire un mot peut-être de ces rencontres et du dynamisme du mouvement écologie humaine dans nos contrées, Benoît de Maupoux?
Alors, 3 choses. En 2014, nous avions accueilli un des co-initiateurs du courant pour une écologie humaine, en l'occurrence c'était Hugues d'Helderville. Lui et ses 2 compères ont fait un tour de France pour expliquer ce que c'était le courant et ce qu'a résumé là, Pierre-Yves. Donc nous avons eu 250 personnes, celle du Rentier à Toulouse, pour expliquer ce que c'était. Derrière ça, nous avons créé un certain nombre d'équipes. Il y a aujourd'hui 3 équipes, c'est modeste, mais l'essentiel est de mener des actions concrètes. Et une action concrète, ça a été, 2 ans après, de monter un débat bienveillant. Parce que comme l'a dit Pierre-Yves, moi, ce qui m'a beaucoup choqué dans toutes ces manifestations de 2013, c'est l'absence d'écoute, c'est l'absence de réflexion de fond. Donc on a essayé de faire un débat bienveillant. En l'occurrence, c'était déjà sur le travail, puisque c'était sur la réinsertion des gens sans emploi. Et puis, troisièmement, c'est ces ateliers, ces CAP formation, vous l'avez évoqué, c'est ces réunions mensuelles que nous tenons avec des gens d'horizons différents et avec à chaque fois alors une partie en vidéo, une vidéo qu'on regarde. Ensuite, une partie où on est en lien avec toutes les villes de France où des équipes tiennent réunion, où donc il y a un partage intéressant. Et enfin, un temps en équipe au cours duquel on décide une action concrète à faire dans le mois, qui peut être aller visiter la personne âgée de son quartier qu'on ne voit jamais, organiser un repas de rue, des choses toutes simples qui sont de proximité. Et enfin, cette année, nous avons par exemple dans notre équipe, ça c'est une action pour la fin de l'année, nous avons quelqu'un qui s'occupe de sortants de prison dans notre équipe, une professeure de violon qui est d'ailleurs dans la salle aujourd'hui, et nous allons organiser un concert pour les sortants de prison pour la fin de l'année. C'est une action. Voilà, donc réflexion, action. Les 2 sont importants, c'est pas nouveau.
Voilà, donc cette émission, on va dire, en faux direct, donc depuis Balma, à l'occasion des rencontres du travail. On va faire une première pause musicale, et puis après, on va recevoir d'autres invités pour continuer à parler de ce thème du travail.
Je suis pas Nasdaq, je vais tous les niquer. Toujours plongé dans le CAC 40, pour mon ordi et mes sushis. Je parle anglais, je suis toujours bronzé. Dans des hôtels et des cocktails, la vie est belle. Je n'ai pas de copain, je n'ai pas de chien. Même pas le spleen, ça ne sert à rien. J'ai un briefing dans un quart d'heure, je suis un tueur. Je blanchis mes dents, mais aussi de l'argent. J'ai fait dorer mon parachute, j'ai adoré vous jouer de la flûte. Un compte en Suisse et pas de contentieux. Je monte mes indices, je fais toujours mieux. Je suis terrible, un peu de vent dans ton corsage. Je t'imagine sur la plage, elles deviennent toutes folles de mon corps. Je suis trop fort.
CAC 40. Nikkei, dólar, euro, stock option, Londres, Paris, Amsterdam.
Je fais mes graphiques au milieu du trafic. J'ai une voiture avec chauffeur, j'écrase parfois quelques chômeurs. Je n'ai pas le temps de pleurer sur leur sort. Je vis dans le présent, j'ai main vaut d'or, une vache à lait, mais j'ai un bon fonds d'investissement. Je fais de bonnes actions à 20%. J'ai choisi la bourse et la vie, je suis pas Nasdaq. De bonnes actions à 20%. J'ai choisi la bourse et la vie. Moi, mon tailleur est italien. C'est impossible que je craque. Je suis pas Nasdaq. Dac.
Voilà, cette émission Vivante Église, donc dans les conditions du direct, comme dit Grégory Martin qui nous a rejoint en plateau, donc émission enregistrée exceptionnellement le samedi dernier à l'occasion donc d'une rencontre à Balma, rencontre organisée par le mouvement Écologie Humaine, rencontre du travail avec ce sous-titre « Le travail change, imaginons l'avenir ». Nous avons rejoint en plateau voilà, des invités de marque, Frédéric Lavenir. Vous êtes directeur général de CNP Assurance et vous êtes aussi le président de l'ADI, Association pour le droit à l'initiative économique. Et Grégory Martin, vous êtes déjà venu dans Vivante Église, vous êtes secrétaire général de la CFDT Occitanie. Déjà bonjour à vous deux.
Bonjour.
Je proposais dans cette deuxième partie d'essayer peut-être, alors évidemment on ne pourra pas faire un résumé, mais de parcourir quelques-uns des grands thèmes et axes de cette journée. Entre autres, ce qui a motivé, si j'ai bien compris, cette journée, c'est que donc le travail change. Alors, à l'intérieur de ça, il y a beaucoup de thématiques. La première réalité peut-être, on lit beaucoup d'articles ces derniers temps sur ce sujet, c'est la numérisation du travail, ou on appelle ça aussi l'ubérisation. Je donnerai juste un chiffre peut-être pour lancer le débat. Et avoir votre point de vue, on a pu voir circuler ce chiffre alarmiste qui avait été donné par deux professeurs d'Oxford de 47% des emplois qui seraient détruits à horizon, je crois, c'était 10-20 ans dans le monde occidental. Et puis l'OCDE derrière a fait une correction en disant non, ça serait juste 9% des emplois. Bref, alors, si on rapporte ça au nombre d'actifs en France, ça fait quand même plus de 2,5 millions de personnes. Sur ce premier volet, je sais pas, dans les univers dans lesquels vous évoluez, qu'est-ce que ça veut dire déjà cette numérisation du monde du travail, Frédéric Lavenir, quand on travaille, quand on est directeur général de CNP Assurance? Est-ce que, je veux dire concrètement, comme on dit, comme je le dis souvent à cette antenne?
Ça veut dire deux choses, enfin, ça veut dire beaucoup de choses, mais deux en particulier. La première, c'est ce que vous venez de mentionner, c'est-à-dire beaucoup d'emplois détruits.
Par exemple, dans votre activité.
Par exemple, beaucoup d'emplois consistant à gérer des tâches simples, hein, qui sont aisément automatisées ou robotisées. Mais en même temps, beaucoup d'emplois créés, hein, puisque... Et c'est peut-être la deuxième conséquence, la deuxième caractéristique de la digitalisation, de la numérisation, c'est qu'à chaque fois qu'on digitalise, on accroît aussi le besoin de relations humaines. Et beaucoup d'emplois à faible contenu technique disparaissent, se transforment et deviennent des emplois relationnels, des emplois d'experts. Et donc l'enjeu numéro un, c'est celui de l'accompagnement et de la formation, je dis bien l'accompagnement et la formation des collaborateurs. La formation parce qu'il y a des dimensions techniques, évidemment, mais l'accompagnement parce que plus encore que les dimensions techniques, il y a des dimensions psychologiques, il y a des dimensions humaines, et que passer d'un métier dans lequel on est seul, à un métier dans lequel on doit travailler en équipe, passer d'un métier dans lequel on est en relation avec soi-même principalement, à un métier dans lequel on doit être en relation avec des clients ou avec des tiers, eh bien c'est un changement qui n'est pas seulement dans les savoir-faire, mais aussi dans les savoir-être. Et c'est la responsabilité de l'entreprise de faire en sorte que cette très lourde transformation se passe dans le respect, je dirais, des hommes et des femmes qui doivent la vivre au quotidien et pour qui ça n'est souvent pas facile.
Est-ce que vous pouvez nous prendre un exemple dans votre entreprise? Quel serait le type d'emploi du coup qui disparaîtrait et ceux qui seraient amenés à être transformés?
Un type d'emploi qui disparaîtrait, c'est celui, par exemple, de gestionnaire d'un certain nombre de processus administratifs simples qu'on automatise, qu'on robotise. Et l'emploi qui est immédiatement créé en même temps, donc c'est une transformation en réalité, eh bien c'est celui qui consiste à expliquer au client à qui on va demander de faire lui-même un certain nombre d'opérations, comment on les fait, et quand ça ne marche pas, comment on récupère le truc, et quand c'est un peu plus compliqué que ce qui est prévu, comment il faut faire. Et donc ce métier qui est un métier de tâches simples va devenir un métier de conseil, d'appui, de réponse, de relations humaines avec des clients. Et ça, c'est une transformation qui est une destruction-création, on va dire. C'est deux manières de dire la même chose. Eh bien, il s'accompagne et il nécessite de formation.
Et c'est-à-dire que dans une entreprise comme la vôtre, à horizon de 10-20 ans, c'est de fait 10% des emplois qui vont disparaître, ou en fait, c'est une vue de l'esprit, parce que, comme vous dites, ça va entraîner des créations derrière.
Non, j'espère que dans une entreprise comme la mienne, et c'est pas de la langue de bois, on aura créé des emplois en net. Hein, on sera plus important et plus gros qu'aujourd'hui. C'est en tout cas le chemin comprend, mais en revanche, on aura certainement plus de 10% des emplois qui auront été profondément transformés, ça oui, et c'est probablement plutôt 50%, voire plus.
Grégory Martin, sur ce volet, est-ce que le syndicaliste que vous êtes est inquiet de cette révolution qu'on dit être comme presque comme l'invention de l'électricité ou de l'automobile? On a l'impression que c'est une toile qui va envahir l'entreprise et qui va...
Enfin, je disais, c'est pas un scoop que les progrès technologiques détruisent et créent des emplois. Il y a 30 ans, quand vous alliez faire vos courses, vous n'aviez pas des boutiques de vente de smartphones. Et donc, il y a des métiers qui se sont créés autour de nouvelles technologies. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que les nouvelles technologies apportent aussi du mieux vivre au travail. J'ai des exemples concrets. Autoroute du Sud de la France, par exemple, qui a mis des machines à la place des hommes sur les barrières de péage et des femmes sur les barrières de péage. Et pour autant, des emplois ont été créés Autoroute du Sud de la France sur d'autres services pour les clients. Donc, on voit aussi qu'il y a des opportunités. Et la troisième chose, c'est que ce qui est important dans une entreprise qui va subir ces grands changements, c'est comment on organise collectivement le débat, l'échange avec les collègues pour permettre que nous anticipions, notamment sur la formation, vous l'avez dit, mais aussi sur la qualité relationnelle, le service qu'on veut rendre aux clients à l'extérieur, parce qu'on voit bien qu'une économie de la qualité, ce qu'on cherche forcément, elle inclut forcément la qualité du service aux clients, et que pour ça, il y a des nécessités d'investissement colossaux, et ce n'est pas un robot qui va remplir cette qualité de la relation au client.
Donc le syndicaliste que vous êtes n'a pas d'inquiétude quant à cette révolution qui vient? Vous pensez qu'elle créera autant d'emplois qu'elle en détruira?
Je ne sais pas en termes de nombre. Ce que je sais, c'est que c'est une opportunité à repenser le dialogue social dans l'entreprise pour anticiper ces grandes évolutions et permettre aux salariés de s'adapter, aux entreprises de s'adapter et ne pas vivre ces changements comme des changements qui soient négatifs, mais des opportunités de progresser, d'améliorer ses compétences, de pouvoir bouger d'une entreprise à une autre sans avoir de difficultés, etc. etc. Donc bien sûr qu'il y a des inquiétudes si jamais les moyens ne sont pas donnés pour accompagner ces grandes évolutions.
Qu'est-ce que vous diriez du coup de l'ubérisation? Est-ce que pour vous c'est un peu quelque part dans le même sens? Je rappelle cette entreprise qui en 6 ans donc, a à une capitalisation de, enfin un prix s'est développé et pèse 40 milliards de dollars. De fait, quand on parle d'Uber, ubérisation, on pense à Uber évidemment, et on a en tête aussi les nombreuses manifestations de taxis. Il y a eu quand même des dommages collatéraux au cœur de cette transformation. En l'occurrence, les taxis étaient mécontents de l'irruption de cette réalité. Est-ce que pour vous, c'est dans le même sac que la numérisation ? Est-ce que il y a une touche un peu différente, et si oui, laquelle ?
Ben, ce qui est intéressant dans votre exemple, c'est finalement, on crée une nouvelle activité. À qui elle profite ? Elle profite évidemment à des clients qui se déplacent plus aisément qu'ils ne se déplaçaient précédemment avec les taxis, mais malheureusement, elle profite à celles et ceux qui ont construit cette entreprise avec finalement très peu de retours pour l'ensemble des salariés. Et les crispations qui ont lieu autour du modèle d'Uber sont liées notamment à la question du financement du vivre ensemble, de la protection sociale. Comment une entreprise comme celle-ci peut s'extraire des règles nationales pour permettre le vivre ensemble grâce à la fiscalité, grâce à la protection sociale. Ce modèle-là de nouvelles technologies et d'ubérisation, si jamais il n'est pas accompagné des vraies pensées et des vraies actions des pouvoirs publics en matière de contraintes fiscales, évidemment que nous serons dans un système parallèle où celles et ceux qui, dans les entreprises, pèsent des charges aujourd'hui pendant que d'autres n'en payent pas parce qu'ils ont des systèmes qui leur permettent, eh bien, il y aura des distorsions de concurrence, des difficultés entre les uns et les autres. Mais je ne crois pas qu'en soi, Uber soit négatif. Je le dis encore, j'utilise parfois Uber. Je me rends bien compte qu'un certain nombre de personnes qui conduisent ces voitures me disent...
C'est un scoop, syndicaliste qui utilise Uber.
Bien sûr, mais vous savez, les syndicalistes, c'est des êtres humains comme les autres. Ceux qui pensent l'inverse se trompent profondément. Et donc, ce que je veux vous dire, c'est que quand on discute avec les chauffeurs Uber, il faut pas être dogmatique. Beaucoup d'entre eux disent c'est compliqué, c'est difficile, mais qu'est-ce que je suis content d'avoir une reconnaissance sociale, d'avoir un métier, d'avoir une rentrée d'argent un peu stable, etc. Donc il y a beaucoup de choses à accompagner. Il y a des conflits qui sont menés parfois, y compris avec le syndicalisme, parce que les règles de justice sociale ne sont pas à la hauteur des enjeux, mais il n'en reste pas moins qu'il faut considérer demain comme étant forcément un facteur de risque considérable qu'il ne faudrait pas accueillir avec bienveillance.
Sur ce thème de l'ubérisation, vous voulez rajouter quelque chose ?
Oui, enfin, je crois que l'ubérisation ouvre beaucoup de questions. Il y en a deux qui sont absolument essentielles. La première, vous venez de l'évoquer, elle est évidente, c'est comment le système fiscal, juridique, s'adapte à des modèles économiques totalement nouveaux. Il n'est pas étonnant, soyons honnêtes entre nous, qu'un système construit sur une autre logique économique ne soit pas bien adapté à cette nouvelle forme. Donc il y a un temps d'adaptation et aujourd'hui il est clair qu'il y a sur le plan fiscal, sur le plan de la contribution aux charges collectives, un vrai problème qui est de la responsabilité des pouvoirs publics. Et puis il y a un deuxième sujet qui est tout aussi important, qui est lié au premier mais qui est très différent, c'est celui de la situation et du statut des travailleurs indépendants qui sont les chauffeurs Uber. Là encore, une mécanique construite sur une logique du salariat n'est plus adaptée. Il y a des problématiques de formation, des problématiques de sécurité au sens noble de la sécurité sociale, c'est-à-dire l'emploi, c'est-à-dire la santé, c'est-à-dire la retraite. Et il y a une problématique également de relations, de rapports de force entre les travailleurs indépendants et la plateforme pour laquelle ils travaillent. Et à cet égard, toute la société est responsable. Certes, les pouvoirs publics, à travers les mécanismes de solidarité qui sont susceptibles de mettre en œuvre dans cet univers qui change, mais également chacun des acteurs associatifs, de formation, privés, dans la contribution qu'ils apportent à une évolution positive de ces emplois qui sont créés, parce que ce sont des emplois créés avec de la richesse créée et des services. Je partage totalement ce qui vient d'être dit sur ce point. Simplement, il faut que ces emplois créés soient effectivement des emplois indépendants dans lesquels la capacité de chacun des acteurs, les chauffeurs, mais pas seulement, on parle d'Uber, c'est vrai dans beaucoup de domaines de la vie, les transports, le logement, etc., soient des indépendants, de vrais indépendants, capable de générer une activité qui leur est propre avec ce choix d'autonomie qui est aussi le leur, parce que bien sûr qu'il y a des travailleurs indépendants qui sont, je dirais là, parce qu'ils n'ont pas trouvé un emploi salarié, mais il y en a aussi beaucoup, et il y en aura de plus en plus, qui choisissent l'indépendance. Et il suffit de discuter avec les gens que vous croisez dans la rue, les chauffeurs Uber et les autres, pour voir que beaucoup d'entre eux sont effectivement dans ce choix de vivre sans avoir un patron et en ayant une liberté dans l'organisation de leur temps qui est la leur. Sauf que ce serait évidemment être un bisounours que de considérer que tout va bien dans le meilleur des mondes. Bien sûr qu'il y a des relations de dépendance qui peuvent se créer et il faut que la société organise la protection des salariés, des chauffeurs ou des indépendants, de telle manière que cette relation de dépendance ne nuise pas leur capacité à générer un revenu décent et à vivre effectivement leur statut d'indépendant de manière positive. Et ça, c'est un enjeu fondamental de société et je pense que les solutions s'élaborent. Il n'est pas anormal qu'elles ne tombent pas toutes cuites du ciel dans cet univers qui est en plein changement.
Juste, je cite un chiffre, 12% aujourd'hui des actifs en France sont indépendants. Et je vous taquinais tout à l'heure sur Uber, parce que c'est vrai que peut-être le consommateur peut avoir cette réserve en se disant, voilà, une fois que toutes ces sécurités que vous venez d'évoquer sont réelles, bah, à ce moment-là, j'utiliserai l'application Uber. Voilà, c'est pour ça que je vous taquinais. J'imagine que certains, ça a traversé l'esprit de chacun et ils avaient quelques réserves.
Oui, mais au-delà du cas Uber qu'on cite souvent, la question du travail indépendant, elle est liée à la question du risque. C'est-à-dire, que se passe-t-il pour ce salarié là, ce travailleur-là, pardon, et non ce salarié, que se passe-t-il si son business ne fonctionne pas, qu'il est obligé de se réorienter, comment il est accompagné, comment il a des dispositifs qui l'aident en termes de protection sociale, de formation, pour aller sur autre chose. Ce qui compte, c'est plutôt le côté transition que le côté statut. C'est-à-dire qu'on passe d'une activité à une autre activité. Qu'est-ce qui se passe entre ces deux activités? Voilà pourquoi le dialogue social, les organisations syndicales, elles sont essentielles pour la compréhension et l'expertise du travail que mènent ces travailleurs indépendants comme les autres, et qu'on amène autour de la table cette capacité à réfléchir au-delà même du statut à la question du mouvement, du parcours, de l'évolution des gens tout au long de leur vie. Voilà notamment pourquoi nous militons, nous, à la CFDT, pour une banque du temps qui permettrait, en fonction de son moment, le moment de sa vie, de pouvoir faire une activité rémunérée, une activité bénévole, une activité dans le cadre collaboratif, etc. etc.
Alors, j'aurais aimé qu'on parle des transformations, on va dire, de côté salarié ou côté management, des différentes attentes dans le monde du travail, mais comme le temps file, on va passer à l'autre sujet. Je voulais qu'on parle un petit peu précarité et souffrance dans le monde du travail, parce que le monde du travail, c'est aussi ça. Hein, il y a ce taux de chômage toujours autour de 10%. Chez les jeunes, je rappelle quelques chiffres, hein, pour ceux qui n'en sont pas familiers, environ 25%, en tout cas chez les moins de 25 ans. Et par exemple, récemment, le Secours catholique a sorti donc son rapport annuel, qui fait un peu, c'est un peu quelque part le bilan de la pauvreté en France, disant qu'il y avait 9 millions de personnes aujourd'hui qui vivaient en France sous le seuil de pauvreté. On a reçu ici, à Radio Présence, enfin dans le cadre de la matinale, la responsable de l'INSEE, on va dire, pour l'Occitanie, qui disait qu'à Toulouse, c'était 25% de la population qui vivaient sous le seuil de pauvreté, 25%, plus d'un million de personnes sous le seuil de pauvreté depuis la crise de 2008. Je ne sais pas, ce n'est pas forcément des gens qui travaillent tous, donc peut-être qu'ils ne sont pas concernés par cette journée-là, mais néanmoins, c'est la réalité de beaucoup de gens. Et un certain nombre aimeraient travailler. Comment, le chef d'entreprise que vous êtes appréhende cette réalité et...
D'abord, la précarité est une réalité. C'est une réalité qui malheureusement, n'est pas en voie de ralentissement. Hein. Vous avez donné des chiffres. On pourrait donner beaucoup de chiffres qui manifestent l'existence d'une précarité lourde et qui n'est pas acceptable, hein, comme citoyen. Et je crois que personne ne peut la considérer comme une fatalité. Donc, il faut lutter contre. Alors, ceci dit, deux observations pour ne pas être trop long. La première, il ne faut pas confondre la précarité d'une certaine population avec les statuts. C'est-à-dire qu'il existe aujourd'hui beaucoup de gens qui choisissent le statut d'auto-entrepreneur, beaucoup de gens...
C'était pas l'objet de ma question, de comparer
beaucoup de gens qui vivent très bien des statuts, je dirais, salariés, ou des alternances de situations salariées et de situations indépendantes. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on fait facilement un amalgame entre des statuts des situations. La situation de précarité n'est pas assimilable à des statuts autres que le statut CDI. Et je pense qu'il est important de souligner ça. Ensuite, sur la précarité elle-même, je dis que c'est inacceptable. Il se trouve que l'ADI, l'association que je préside, association de microcrédit, finance des projets de création d'activités indépendantes par des personnes qui, pour certaines, pour beaucoup, sont dans des situations de précarité, telles que vous les décrivez. Près de la moitié de nos clients sont en dessous du seuil de pauvreté et sont en général des personnes sans emploi ou à emploi précaire ou à niveau de revenu extrêmement faible. Ces personnes-là créent leur activité et il s'avère que le taux de pérennité des activités qu'ils créent est exactement le même que celui de la moyenne des entreprises de cette catégorie créée en France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe dans la société française de nombreuses personnes, de très nombreuses personnes en situation de précarité qui en réalité ont la capacité de développer leur activité et leur emploi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la société dresse des barrières à l'accès à l'activité, des barrières financières, des barrières administratives et bureaucratiques, des barrières parfois fiscales et sociales, et que la responsabilité du politique, mais de chaque citoyen en tant que personne, en tant que membre d'association, en tant que membre de syndicat, est probablement probablement et même certainement de faire en sorte que ces barrières soient levées, parce que beaucoup de personnes en situation de précarité n'ont aucune raison objective de l'être, sauf les barrières que la société met à leur capacité d'accès à l'initiative, d'accès à la création d'activités. Et ce que nous venons de dire à l'instant sur le développement des plateformes, le développement du travail indépendant, c'est une chance supplémentaire donnée à ces personnes de sortir de la précarité à travers l'emploi indépendant, comme bien sûr il importe qu'elles continuent d'en sortir par l'emploi salarié. Voilà ce que je crois on peut dire aujourd'hui en deux mots sur un sujet qui mériterait
bien
trois
sûr,
heures de débat.
On ne peut pas vous réinviter, mais pourtant ça sera avec plaisir. Grégory Martin sur ce sujet.
Oui, on voit qu'il y a un lien très fort entre précarité et type d'activité de travail, parce que la précarité ne touche pas tout le monde de la même façon. Elle touche par exemple prioritairement les jeunes ou les femmes seules. Et comme par hasard, les jeunes qui ont du mal à trouver, à s'insérer professionnellement dans la durée, ou les femmes qui sont très souvent soumises au temps partiel. Et on voit bien là la relation entre monde du travail, revenu et précarité. Et donc l'objectif du syndicaliste que je suis de la CFDT, c'est d'arriver à faire qu'on puisse vivre dignement de son travail ou de son activité, ce qui veut dire qu'à la fois, évidemment, les négociations sur la rémunération des salariés et la répartition des richesses au sein de l'entreprise doivent évoluer au profit d'une meilleure rémunération pour les salariés, mais aussi que dans le cadre des droits sociaux, dans l'accompagnement des parcours qui peuvent être chaotiques, l'ensemble de la société décide d'investir dans celles et ceux qui sont éloignés du marché du travail pour leur permettre de retrouver une activité qui soit pérenne et avec un revenu.
Qu'est-ce que ça veut dire en l'occurrence ? Quand vous dites ça, c'est-à-dire que quelle grande réforme vous appelez de vos voeux quand vous dites ça ?
Par exemple, quand on parle de la réforme sur la formation professionnelle, ce que nous disons, nous, au gouvernement, elle est en cours, c'est que la formation professionnelle doit d'abord permettre à celles et ceux qui sont les plus éloignés du marché du travail de pouvoir retrouver un socle de compétences qui soit bankable, vendable le plus possible. Vous savez qu'aujourd'hui, la formation professionnelle sert à ceux qui ont déjà des bac plus 2, bac plus 3, bac plus 4. Elle sert quasiment pas du tout à ceux qui n'ont jamais eu un diplôme. Donc on voit bien qu'il y a beaucoup de possibilités d'action pour permettre que cette question de la pauvreté liée à la question de la compétence et donc liée à la capacité à s'insérer socialement par le travail, eh bien là, ce sont des leviers qui sont absolument possibles de faire bouger.
Frédéric Lavien, vous avez une réaction dont je vous voyais dire oui de la tête, non ?
Ah oui, je suis évidemment profondément convaincu que la réforme de la formation professionnelle est un élément absolument clé par rapport d'ailleurs à toutes les questions que nous venons d'évoquer, hein, que ce soit la transformation de l'entreprise, la transformation des emplois, que ce soit l'accès des plus précarisés à l'emploi. Il est clair que la formation professionnelle est le sujet clé et que... Pour le moins, on peut dire qu'il y a des progrès à faire et que, manifestement, le gouvernement a engagé une réforme dont on peut en tout cas espérer qu'elle fera progresser notre société vers l'emploi de manière significative. En tout cas, c'est ce que
la CFDT est en train de s'y employer, en tout cas pour sa part.
Très voilà, et ben merci beaucoup en tout cas. Il y aurait eu plein d'autres choses à dire, mais le temps est compté. On va faire une deuxième pause musicale pour cette émission un peu de digest de ces journées. Je rappelle que nous sommes en direct de Balma, enfin faux direct, pour des rencontres du travail organisées par le mouvement Écologie Humaine sur le thème le travail change, imaginons l'avenir. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Si j'avais pu parler à l'arbre, j'aurais dit déraciné. Du ciel je suis tombé en plein milieu de la rue, cité des enfants perdus, au bal des exclus. Je lui aurais dit partageons si tu veux du pain, j'en ai pour deux. Mais l'homme avait changé sa façon de marcher, il ne m'a pas répondu. La porte il a fermé, du doigt il m'a montré en plein milieu de la rue, cité des enfants perdus, au bal des exclus.
Emmanuel Pella.
Une émission Vivante Église ce matin, donc en faux direct, enregistrée donc samedi dernier à l'occasion d'une rencontre, rencontre du travail au pluriel, organisée par le mouvement Écologie Humaine à Balma, sur le thème « Le travail change, imaginons l'avenir ». Si vous nous prenez en cours de route, ce mouvement Écologie Humaine est un mouvement qui a été développé par trois fondateurs après les grandes manifestations contre la loi Taubira. Mouvement Écologie Humaine qui part du principe que la première réalité à sauver aujourd'hui est l'homme, et que si on en tient compte, eh ben, on peut travailler à une transformation culturelle, sociale et politique de la société. Bref, nous ont rejoint en plateau pour continuer à nous donner, on va dire, le meilleur de cette journée pour tous ceux qui ne sont pas venus à ces rencontres. Éric Pilet, vous êtes directeur de l'Arche en Pays Toulousain. Bonjour. Vous intervenez parfois, bonjour, au micro de Radio Présence ou de Vivante Église. Et Henri Mialog, vous êtes psychologue, psychanalyste, et vous intervenez à l'Institut catholique de Toulouse. Bonjour.
Bonjour.
J'aimerais qu'on parle avec vous de de la place des plus vulnérables dans le monde du travail. Alors, ce n'est pas tout à fait le thème qui sera abordé cet après-midi, puisque c'est au-delà des relations marchandes, le travail au service de tous les hommes. Vous intervenez dans cette table ronde. Et vous, Henri Mialog, je crois que vous avez été charge de l'introduction de cet après-midi. Vous allez nous rappeler, en fait, ce qui sont les trois fondamentaux des relations humaines, et évidemment, du coup, aussi dans le cadre associatif ou dans le monde de l'entreprise. La première chose, vous nous dites, c'est l'importance, peut-être on va commencer par celui-là, l'importance de la parole. Alors dites-nous pourquoi vous voulez insister sur la parole et qu'est-ce que vous entendez par là ?
Il me semble important de reconnaître l'individu, tout individu, qu'il soit un usager d'un service ou que ce soit quelqu'un qui soit engagé dans le service ou qu'il soit salarié, comme quelqu'un qui est doté d'une parole, et que sa parole, c'est à la fois un outil et une condition. C'est un outil de communication, et on a besoin pour communiquer les uns avec les autres de parler, mais en même temps, pour être reconnu comme des êtres humains à part entière, on a besoin de se reconnaître et d'être reconnu comme, alors c'est un petit peu étrange de le dire comme ça, comme inscrit dans le langage. Ce qui fait notre humanité, c'est notre capacité de parole, c'est notre inscription de la parole. Il me semble que...
Juste, pourquoi est-ce que c'est important de le rappeler ? Parce qu'on va dire que ça tombe sous le sens. On se parle dans le monde de l'entreprise, certaines personnes qui n'ont pas l'usage de la parole. Mais pourquoi, à votre avis, c'est si important de le redire aujourd'hui dans le cadre de ces rencontres ?
Parce que trop souvent, on entend dire combien... Ce n'est pas la peine de le dire, je le fais. Ce n'est pas la peine de le dire, je le montre. Ce n'est pas la peine de le dire, l'autre le sait. Par exemple, pour l'amour, hein, dire à quelqu'un « je t'aime ». Il me semble essentiel de le faire et de le dire. Ça, c'est pour le premier aspect un peu général. Et dans le cas de l'entreprise ou dans le cas d'un travail associatif, d'une dimension associative, l'important aussi, c'est d'acter le fait que chaque sujet va être reconnu dans ce qu'il peut dire, de ce qu'il ressent en plus ou en moins, en aspiration ou au contraire en difficulté. Donc, il va être, l'individu va être identifié dans ce qu'il peut dire, beaucoup plus que dans ce qu'il peut faire. Et c'est un peu étrange, hein, mais en même temps, pour se distinguer, pour voir la différence avec les animaux entrent dans des relations de presque de solidarité, de proximité, de chaleur partagée, d'échanges affectifs, même émotionnels, ce que nous, on valide souvent, mais ils n'ont pas le langage symbolique. Et ce qui va être, nous, notre humanité, y compris au travail et y compris devant la personne vulnérable, c'est le fait qu'on est dans un langage et que l'on va s'adresser à quelqu'un, et à travers ce qu'on lui dit, on va à la fois s'identifier dans notre dimension profonde et on va le reconnaître dans sa réalité à lui, tel qu'il est à travers les mots que l'on fait circuler entre lui et nous.
Alors, comme le temps avance, je propose de ne pas faire réagir Eric Pilet, peut-être qu'il pourra réagir aux trois fondamentaux après. La deuxième chose, c'est vous insister sur la... il faut travailler à une forme de distinction, on va dire, pour ceux qui managent comme ceux, pour ceux qui sont managés, même si tout le monde, dans le fond, est managé à un moment, entre l'être et le faire. C'est-à-dire, quand vous m'en parliez en préparant l'émission, je disais c'est presque une vertu monastique ou chrétienne derrière ça, c'est-à-dire de toujours avoir une forme de distance avec ce que l'on fait. Est-ce que j'ai bien compris ?
C'est tout à fait ça, c'est réussir à se distinguer de ce que l'on fait et à ne pas être identifié à nos actes. Par exemple, notre travail ou à notre militantisme. Que l'on puisse réussir à faire la part des choses entre ce que l'on est, ce que l'on aspire, ce que l'on veut, ce que l'on est profondément, et ce que l'on fait. En sachant que l'individu, l'être humain, ne peut jamais être réduit à ce qu'il fait, à ce qu'il montre en termes d'actes. Par contre, il peut être identifié à ce qu'il dit et à ce à quoi il aspire. Ce qui est un peu différent. Nos aspirations, généralement, sont beaucoup plus larges et plus grandes que nos réalisations. Et donc, il me semble important que l'on puisse avoir un peu de modestie, quel que soit ce que l'on fait, un peu de modestie devant notre faire.
Et pourquoi c'est le travail. Même question que tout à l'heure, pourquoi c'est important de le rappeler pour vous dans le cadre de ces journées?
Parce que trop souvent, on pense que l'on est résumé à ce que l'on fait. En particulier, quand on vit des actes soit très beaux, soit des actes terribles, qui nous mèneraient en prison ou des choses comme ça, on peut réduire la personne à ce qu'elle a fait. Un meurtrier ou quelqu'un qui a fait des actes très très beaux et très nobles. Il n'empêche qu'on est paradoxalement beaucoup plus que cela, et surtout notre faire ne nous résume pas. Et donc, il s'agit de distinguer le sujet, la personne, et ce qu'elle fait, l'objet. Et cette distinction, entre les deux, il doit y avoir un vide. Et ce vide, ça doit être, je m'arrête, je vais dormir, je clique quitter, et je clique ouvrir. C'est-à-dire que je quitte l'activité que je fais, militante, bénévole, professionnelle, et j'ouvre autre chose. Et donc, ça, cette distinction passe par quitter.
Donc l'importance de la parole comme nécessaire pour être reconnu, on va dire, l'importance de cette distance, enfin de cette forme de liberté intérieure quelque part à l'intérieur du travail. Le troisième point sur lequel vous insistez, c'est l'importance des valeurs de référence. Alors dites-nous, qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors les valeurs de référence, après donc la question de la parole, la question de la distinction entre le sujet et l'objet, c'est le fait que nous les êtres humains, ce qui nous rend solidaires les uns des autres, ce sont des valeurs partagées. Ça peut être des croyances, ça peut être des choses en quoi, si on peut dire, des croyances religieuses ou pas. Et il y a entre nous quelque chose de plus que nous qui nous réunit. C'est un peu étrange comme formulation, mais c'est cette idée qu'un citoyen, quand il est citoyen du monde, ça veut dire que ce n'est pas simplement lui et les autres, c'est lui, le monde et les autres. Un croyant, c'est pas lui et l'autre croyant, c'est lui, l'autre croyant et la croyance qui les réunit. Dans une association, c'est l'ensemble des bénévoles et les valeurs qui sont partagées, par exemple le projet associatif. Et donc, il y a une effectivité de cette référence commune, même si elle n'est pas explicite, c'est-à-dire même si on ne se la dit pas explicitement entre nous. De toute façon, ce qui fait le ciment de la relation entre nous, les êtres humains, au travail ou ailleurs, c'est le fait qu'on partage, qu'on le sache ou pas, des valeurs communes. Une référence commune.
Éric Pilet, est-ce que ça fait écho à votre expérience de l'Arche, cette attention à la parole, une forme de liberté intérieure, et puis à constamment expliciter les valeurs de référence pour que tout le monde ait envie d'avancer? En deux mots, l'Arche, c'est donc ces communautés d'accueil de personnes handicapées, voilà, dont une qui existe à Toulouse.
Voilà, nous présentons comme une communauté de personnes avec et sans handicap qui vivons et travaillons ensemble. Alors, je voudrais réagir à plusieurs choses très intéressantes qu'a dites Monsieur Mialoc. D'abord sur le faire. Moi, je suis tout à fait d'accord que notre société et dans l'entreprise, puisqu'on parle aussi de l'entreprise, les personnes, les salariés sont souvent uniquement valorisés à travers le faire au détriment de l'être. Nous sommes à l'Arche avec des personnes qui sont très peu dans le faire et qui sont au contraire beaucoup dans l'être et qui, je crois, nous apprennent à développer davantage justement cette notion d'être avec, sans valoriser. Il n'y a aucune survalorisation du faire, même si on a eu du travail. C'est très important de développer cette dimension, et notamment cette dimension de vérité dans les relations. Les personnes avec un handicap, moi, m'apprennent à me désarmer, à ne pas être en compétition, et d'une certaine manière, je crois, à être davantage moi-même. Et je crois que dans le monde de l'entreprise, où on est plus dans la pression, dans la compétition, dans la nécessité de se montrer peut-être parfois un peu différent ou plus fort qu'on est dans la réalité, je crois que c'est quelque chose qui manque et qu'en tout cas, on apprend dans la présence avec les personnes handicapées, je crois, à être davantage nous-mêmes. On est aussi avec des personnes qui, pour beaucoup, n'ont pas la parole. Et donc, je suis un peu interpellé par ce que dit M. Mialoc en disant que ce qui fait l'humanité, c'est justement cette capacité de dire. Il y a des personnes qui n'ont pas cette capacité de dire, mais par contre, elles communiquent. Et on est bien dans, on peut dire de plein de manières différentes, transmettre des choses autrement que par la parole, même si évidemment c'est un grand don et une grâce d'être doué de la parole. Et donc ça demande de la créativité, mais aussi justement de cette présence, de cette attention à l'autre, d'être à l'écoute de ce qu'il peut malgré tout avoir à nous dire. Autrement que par la parole. Et cette attention, je fais encore un parallèle avec l'entreprise, et justement ce qui peut manquer dans le monde économique, où moi j'entends beaucoup des salariés dire « mon chef ne me connaît pas, il ne passe pas de temps avec moi, il ne m'écoute pas,
il ne me comprend pas,
il n'a pas le temps, ça veut pas, éventuellement je ne vais même pas le vouloir. Le système fait que souvent on n'a pas le temps de se parler et je ne suis pas reconnu dans ce que je fais. »
Alors peut-être vous pourrez prolonger la conversation pour avoir des précisions sur les propos de M. Mialoc. De toute façon, cet après-midi, puisque je rappelle cette émission est enregistrée, donc a été enregistrée samedi dernier, vous aurez le loisir d'en parler. Comme je vois que le temps presse, et déjà on me fait signe que l'émission touche à sa fin, et qu'il y aurait bien d'autres choses à dire, je voulais qu'on ne se quitte pas quand même sans que vous développiez quelques mots autour de la notion de fragilité. L'Arche est connue en France pour essayer de faire exister cette réalité qui n'est pas en soi, on va dire, toujours, qu'il faut prendre avec précaution. La fragilité veut dire aussi la souffrance. Il y a eu des colloques qui ont été organisés sur le thème des fragilités interdites, entre autres à Paris, à Toulouse en février dernier, on avait fait une mission. La fragilité, si j'ai bien compris, c'est souvent une porte ouverte vers la confiance et vers la fraternité. Alors pour vous, c'est une tarte à la crème, mais pour bien des gens, ça n'en est pas une, particulièrement peut-être dans le monde de l'entreprise. Vous pouvez nous redévelopper un peu ce triptyque fragilité, confiance, fraternité.
Alors je pourrais peut-être partir de cette phrase qui est que ma faiblesse, dite et accueillie, est la possibilité d'un lien. Et que il y a quelque chose peut-être de mystérieux, mais qu'en disant à l'autre et en étant justement dans cet environnement de confiance, encore faut-il le créer, avec l'autre ou avec les autres dans une équipe, j'ai la conviction, et en tout cas c'est notre expérience, que dans ces conditions-là, en se disant aussi, au-delà de nos talents et de nos compétences qui sont importantes à partager, mais aussi à partager ou à savoir dire nos doutes, nos faiblesses, nos difficultés, il y a quelque chose qui va renforcer très fortement le lien entre les personnes. Parce que c'est justement, si j'ose le faire, si j'ose me rendre vulnérable ou montrer ma vulnérabilité, l'autre va être touché. Et moi-même, je vais l'être. Et donc, du coup, le lien va se renforcer. Je ne sais pas ce qu'on dirait la psychologie ou la psychanalyse, mais je crois que c'est quelque chose de très important à cet égard.
La psychologie, la psychanalyse. Est tout à fait d'accord avec cette idée, en mettant bien l'accent sur le fait que le passage par la fragilité est un passage douloureux, parce que fragilité, ça veut dire échec, déception, douleur, souffrance, et que ça peut devenir un gain, effectivement, à partir du moment où le sujet accepte de faire ce passage par ce moins pour, à partir, quand il est au fond de ce moins, pouvoir rebondir et essayer de remonter vers le plus. Et donc, si j'insiste un peu là-dessus, c'est parce que trop souvent, on peut penser qu'on peut faire de notre faiblesse une force. La réponse est oui, en acceptant de prendre le poids, de reconnaître le poids et la lourdeur de cette faiblesse et combien elle est difficile à assumer. Et qu'à partir du moment où on réussit, ce qui est un travail très important et difficile, à assumer cette faiblesse, elle peut devenir une force. Je suis complètement d'accord avec ça.
Voilà, je suis désolé, il y aurait eu plein d'autres choses à dire. C'était un peu le défi de cette émission, de donner peut-être de mettre en bouche ou de donner un résumé. Donc pardon si vous n'avez pas eu beaucoup de temps de parole, Eric Pilet, mais on vous réinvitera. Voilà, on peut-être faire une pirouette et retomber sur l'intuition des débuts. Quand Pierre-Yves Gomet disait que toute révolution culturelle, sociale et politique parle de l'homme et de l'attention à l'homme, on pourrait ajouter peut-être à sa fragilité. La reconnaissance de cette fragilité mutuelle, c'est peut-être ça le cœur de l'écologie humaine et ce qui peut transformer notre société. Voilà, je rappelle que cette émission était donc enregistrée en direct, juste un site internet depuis Balma et les rencontres du travail, un site internet www.ecologiehumaine.eu www.ecologiehumaine.eu. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Franck Guéret. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.